Chapitre 41. Nietzsche passa la première afin d'éclairer la pièce avec son globe lumineux. Richard la suivit, la tête baissée pour ne pas heurter l'encadrement de la porte. Dès que la magicienne fut entrée, une dizaine d'autres globes, posés sur des supports muraux, s'allumèrent sur toute la circonférence de la salle. Sous le plafond voûté, exactement au centre, se trouvait un petit muret circulaire. La copie conforme de tous les autres puits de la Slif que Richard avait vus. Callan prit le bras de son mari et souffla. « Tu avais raison, Richard. Par les esprits du bien, tu avais raison. » « Et dire que c'est ainsi depuis des millénaires, » soupira Nietzsche. « Personne n'est entré ici depuis les grandes guerres, j'en suis sûr. »« Ces femmes ont oublié presque tout leur héritage, » dit Callan, « au point de ne plus savoir que le puits était tout près de leur quartier. » L'inquisitrice eut un grand sourire. L'idée de ne plus être coincée dans ces grottes lui mettait du baume au cœur. « La Slif nous conduira au Nouveau Dron, » ajouta-t-elle. « Au Palais du Peuple, par exemple, où Nietzsche pourra débarrasser Richard de la souillure. » Le sourcier sourit. Pour l'instant, il ne pouvait pas dire à sa femme qu'il ne laisserait jamais arriver une telle chose. Levant sa lampe, Cassia se pencha pour jeter un coup d'œil dans le puits. « J'en ai vu un comme ça au Palais du Peuple, » dit-elle. « Oui, nous l'avons déjà utilisé. » Nietzsche aussi se pencha pour sonder le puits. « La Slif n'est pas là, » annonça-t-elle. Richard n'en fut pas du tout surpris. « Nous allons devoir la réveiller, » dit-il en approchant du puits. « Comment allons-nous faire ?» demanda Val. « Je vais l'appeler. Ce ne sera pas la première fois. »« Quand ton don fonctionnait, » rappela Callan. C'est vrai, oui. Nietzsche, pose ce globe pour pouvoir m'aider. Si tu me soutiens avec ton don, nous réussirons peut-être. Richard se pencha sur le puits et croisa les mains, plaçant l'un sur l'autre ses serres poignées d'argent gravées d'antiques symboles. Comme il l'avait déjà fait plusieurs fois, il imagina que la Slif venait à lui. Jusque-là, il n'avait jamais eu de mal à la réveiller, mais il ignorait le rôle qu'avait joué son don dans l'opération. Ce ne serait pas son premier voyage dans la Slif. Parfois, il s'était montré réticent. Aujourd'hui, il était pressé de commencer. Le temps s'écoulait. Il devait gagner le palais. Nietzsche recouvrit les mains du sourcier avec les siennes. Aussitôt, Richard sentit le picotement et la chaleur du don qui se déversait dans ses serres poignets. Ce n'était pas une expérience agréable, mais on ne souffrait pas. Même quand elle était au service du bien, la magie faisait parfois un effet peu plaisant. « Viens à moi, » dit Richard les yeux fermés. « J'ai besoin de toi. » Un très long moment, le sourcier et la magicienne restèrent ainsi, attendant que la Slif se manifeste. Lorsqu'il entr'ouvrit les yeux, Richard vit que le puits était toujours vide, enfin, la partie qu'on en distinguait car il semblait sans fond. Les serre-poignets couverts de symboles du langage de la création brillaient intensément. Cette lumière née de la magie de Nietzsche ou de quelque chose qu'elle puisait en lui et amplifiait avec son don, il n'aurait su le dire, était si vive que le sourcier apercevait les os de son poignet à travers la peau et les muscles. Renvoyée par la voûte, cette intense lueur s'enfonçait dans les profondeurs du puits, une messagère partie à la recherche de la Slif. Une petite éternité durant, Richard et les quatre femmes attendirent que la créature de vif argent veuille bien répondre à cet appel. Mais rien ne se passa. Soudain, Richard sentit le sol trembler sous ses pieds, puis les murs vibrèrent aussi, de la poussière s'en détachant. Venant du fond du puits, un souffle d'air fit voler les cheveux de Richard et de Nietzsche. Craignant d'être percutés par la Slif, ils reculèrent vivement. Du vif argent jaillit du puits, comme s'il voulait aller s'écraser au plafond, mais il s'immobilisa très vite et redescendit lentement jusqu'au niveau du muret. La salle cessa de trembler. Le vif argent bouillonna puis se gonfla au centre, formant une sorte d'appendice qui prit la forme d'un visage sur lequel se dessinèrent des traits féminins. La Slif balaya la salle du regard, puis elle se concentra sur Richard.
« Tu m'as appelé ?»
demanda-t-elle. Elle ne semblait pas ravie d'avoir été dérangée. Alors que la voix de Richard ou des femmes ne sonnait pas différemment, celle de la créature retentissait dans toute la salle.
« Oui, nous devons voyager. »« S'il le faut, Tu seras seul ?
Non, nous viendrons tous. Le visage de Vif-Argent étudia brièvement les quatre femmes.
Comme tu voudras. Mais il faut que ces personnes avancent afin que je détermine lesquelles peuvent voyager.
La Sliff, trouva Richard, était curieusement distante et réservée. D'habitude, elle brûlait d'envie de voyager et de satisfaire ses clients. Jusque-là, elle s'était toujours montrée séduisante, parfois à la limite du racolage, et avide de voyager avec lui. Déconcerté par une réception si glaciale, le sourcier fit cependant signe aux femmes d'avancer. Quand elles furent toutes autour du puits, un bras jaillit du Vif-Argent pour toucher le front de chaque voyageur potentiel.
« Ce n'est pas parfait, » annonça la Sliff. « Mais vous avez tout ce qu'il faut pour voyager. Si tu insistes, je vous prendrai tous. »«
Nous sommes coincés ici, » dit Richard, de plus en plus énervé par le comportement de la créature. « Si nous laissons une personne en arrière, elle mourra. Alors oui, j'insiste. » La Sliff dévisagea un moment le sourcier, puis elle acquiesça.
« Comme tu voudras. »
Richard fit coulisser l'épée de vérité dans son fourreau, juste quelques pouces, puis la laissa retomber.
« Tu es notre seul espoir de fuir et je dois avoir mon épée avec moi. »« Pourquoi voudrais-tu que ça m'intéresse ?»
Cette fois, Richard dut se retenir d'exploser.
« Par le passé, emporter mon arme aurait été mortel. Est-ce que c'est différent aujourd'hui ?»
La Sliff se dota de nouveau d'un bras qui alla toucher la poignée de l'épée.
« Cet objet dangereux t'appartient, » fit la créature d'un ton glacial.
« Oui, je te l'ai déjà dit. »«
Mais cette arme est-elle liée à toi par la magie ?»«
Oui. »«
Sais-tu que la mort est en toi ? Ton épée, parce qu'elle est liée à toi, ne fera pas de mal à tes compagnes. »«
Et moi ? Que me fera-t-elle ?»
Le visage de Vif-Argent resta imperturbable.
« Je te l'ai dit, tu as la mort en toi. »«
Je sais, et alors ?»«
Si tu n'avais pas la mort en toi, l'épée tuerait les autres pendant le voyage. Elle te tuerait aussi d'ailleurs. »« Mais dans les circonstances présentes, elle ne pourra pas te nuire. »«
Pourquoi donc ?»
demanda Michi hautement sceptique. Sourcils froncés, la Sliff se tourna vers la magicienne.
« Parce qu'on ne peut pas mourir deux fois. Cet homme est déjà mort, en tout cas pour ce qui concerne la magie. Il a traversé le voile sans espoir de retour et il n'a aucune chance de rester en vie. La mort le possédant déjà, elle ne peut pas s'emparer de lui une deuxième fois. Mes amis et moi, nous n'avons pas la mort en nous, pourquoi l'épée nous épargnerait-elle ?»
La créature sembla ennuyée de devoir expliquer des choses si simples.
« Cet objet est conçu pour tuer. Sa fonction, c'est de semer la mort parmi les vivants. Cet homme vit encore, mais il a la mort en lui. Tant qu'il voyagera en moi avec vous, la magie de l'arme restera concentrée sur lui. Cette épée est faite pour réagir d'une façon donnée, et elle ne peut pas s'en écarter. Pour l'instant, il lui est impossible de s'occuper d'autre chose que de son propriétaire, donc vous serez à l'abri de sa magie mortelle. »
« Bref, je peux l'emporter, » dit Richard, soucieux de clore la conversation.
Callan semblait très inquiète, et il ne voulait surtout pas la perturber davantage.
« Oui, » confirma la Sliff, « mais sache que ça renforcera la mort qui est en toi. »«
Ce qui signifie exactement ?»
demanda Callan, les poings plaqués sur les hanches.
« Eh bien... » L'arme affaiblira la vie qui est encore en lui et ajoutera de la puissance à la mort qui le ronge. En d'autres termes, elle accomplira sa mission, modifier la position du voile à l'intérieur de son propriétaire, en faisant gagner du terrain à la mort.
Et ça raccourcira le temps qui lui reste à vivre?
Bien sûr. Voyager avec cet artefact le videra de ses forces et affermira l'emprise que la mort a sur lui. Mais comme elle le domine déjà, ça ne le tuera pas.
Combien de temps ça lui enlèvera?
Je n'ai pas les compétences pour le dire,
Mais ses forces vitales seront diminuées, c'est une certitude. »
Callan tira son mari par la manche.
« Tu ne peux pas courir ce risque. Il faut laisser ton arme ici. »
Un jour, la Sleaf avait dit à Richard qu'elle allait rejoindre son âme lorsqu'il l'autorisait à se rendormir. En clair, ça voulait dire qu'une partie d'elle-même était liée au royaume des morts, et ça, c'était inquiétant, parce qu'elle savait de quoi elle parlait sur ce sujet.
« Callan, nous n'avons aucun moyen de revenir ici, sauf avec l'aide de la Sleaf. Impossible de laisser mon épée ici sans espoir de la récupérer un jour. Richard, ta vie est en jeu. »
« Non, c'est la vie en elle-même qui est en jeu. »
Le sourcier se pencha vers sa femme et baissa le ton. « L'épée est la clé d'une chose importante mentionnée dans les manuscrits soléens. » Richard n'en dit pas plus, avec l'espoir que Callan capterait le message. Et il ne fut pas déçu car un éclair de compréhension passa dans les yeux de sa femme. L'épée était la clé du pouvoir d'Orden, lui-même lié au conte crépuscule, aux prophéties et à tous les événements en cours. Comment abandonner la clé d'une telle puissance? La Sleaf avait conscience du nécessaire équilibre entre les mondes. Sans nul doute, elle ne mentait pas au sujet du prix à payer pour emporter l'arme. Mais c'était sans importance.
« Bon, allons-y !»
lança Richard en se tournant de nouveau vers la Sleaf.
« Le temps presse !»
Il posa un pied sur le muret.
« Conduis-nous au palais du peuple !»«
Où ça ?»
demanda la créature de vif argent.